Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Aujourd'hui, Avignon, retour de marché. C'est ce titre un peu provocateur que nous avons choisi aujourd'hui. En effet, et il était temps, Radio Scénique s'est rendu pour la première fois cet été à Avignon, au festival OFF. Oh, pas très longtemps, certes 3 jours, mais suffisamment longtemps pour voir cette grosse machine de plus de 1500 spectacles se dérouler, proposer un paysage pour le moins contrasté. D'un côté, les petits spectacles indépendants qui ont mis leurs dernières économies pour se faire connaître, déployant des trésors d'ingéniosité, parfois maladroits, souvent inventifs et en tout cas vivants. De l'autre, les grosses machines se produisant dans des grandes salles, dont certaines, Scala, Reine Blanche ou Théâtre des Béliers, ont des succursales à Avignon. Et entre les deux, une foultitude de spectacles plus ou moins réussis. Alors aujourd'hui, au-delà du paysage théâtral dressé après Avignon, nous vous proposons de parler de 3 des spectacles que nous avons vus et aimés. En studio aujourd'hui avec nous, Frédéric Cherbeuf et Adif Cheki, comédien metteur en scène et comédien, ils représentent le collectif L'Émeute. Ils nous parleront du jeu de l'amour et du hasard que nous avons découvert à Avignon et revu avec plaisir au Théâtre des Mathurins à Paris. Avignon, parmi les 12 spectacles que nous avons vus, nous avons choisi de faire un gros plan sur 2 autres. Air poids lourd, mis en scène par Carole Errante, et France Fiction, coécrit et joué par Nicolas Robinet. Nous avons rencontré les 2 protagonistes sur place en juillet, quelques jours avant la fin du festival, et nous avons recueilli leurs impressions. Nous les écouterons en deuxième partie d'émission. Pascal Dutertre, bonjour. Votre chronique à vous, elle s'intéresse à l'histoire du théâtre et dans votre cheminement chronologique. Après le Moyen-Âge, où vous êtes fort logiquement intéressé à la Renaissance.
Oui, bonjour Eric. Et si je vous dis Arlequin et Colombine, vous me répondrez Commedia dell'arte, bien sûr. Commedia avec 2 M. Et vous n'aurez pas tort.
Pascal, vous nous en direz plus à la fin d'émission. C'est là que nous vous retrouverons. Vous avez le programme. Éteignez vos portables. Voici venue la 18e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Explique-toi donc, ma fille.
Doran arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps. Et je prendrai la sienne.
Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or ?
Faux. L'utile et l'agréable, tous y trouvent. Il s'agit d'un bonheur.
Dès que je ravertis ma chambre de ce que tu as, je te chasse.
Brûle, enfin, épouse. Je te le permets si tu le peux.
Je t'aimerais si je pouvais. Lève-toi.
Adip Cheki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des 3 dorants de la distribution du jeu de l'amour et du hasard. Vous êtes membre, membre fondateur du collectif L'Émeute.
Complètement.
Ouais. Et après l'aventure avignonnaise, vous êtes au Théâtre des Mathurins, vous et toute une troupe. Pour vous, finalement, Avignon, c'était que quelques dates dans une tournée qui dure depuis 2 ans, non ? C'est ça ?
Ouais, c'est sûr que quand on regarde l'aventure globale, c'est une petite goutte d'eau parce que maintenant, on en est déjà à plus de 260 représentations.
Et c'est pas fini.
Ouais, parce qu'on en a encore environ 120 cette année. Mais pour nous, c'est toujours un enjeu majeur, et autant financier qu'artistique.
Oui, on parlait tout à l'heure de l'investissement considérable que représente une représentation à Avignon. Pour vous, c'est un décor énorme. Combien de comédiens ?
On est venu avec 2 spectacles, donc le jeu de l'amour et du hasard et notre nouveau spectacle, l'illusion comique de Corneille. Donc ça représente à peu près une 20aine de personnes, 2 décors, 2 camions, des régisseurs, beaucoup de monde.
Alors, à l'origine de ce collectif, il y a Frédéric Cherbeuf qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais vous êtes l'un des 3 dorants de la distribution. Par chance, celui qu'on a vu le soir de notre venue au Mathurin. Il faut le préciser, L'Émeute, hein, la compagnie dont vous faites partie et qu'a créé Frédéric Cherbeuf, c'est un collectif. C'est quoi un collectif de théâtre ?
Alors, un collectif de théâtre, donc c'est un groupe de personnes qui va se réunir pour essayer de faire du théâtre. Et dans l'idée de collectif, contrairement à compagnie, il va y avoir l'idée de collaboration. Donc l'idée qu'on va essayer de prendre des décisions en commun, que ce n'est pas une seule personne qui décide pour tout le monde, comme ça peut être le cas dans certaines compagnies. Et on essaye de faire les choses en groupe.
Résultat, vous n'avez pas fait que jouer, vous êtes que jouer en alternance, vous êtes aussi co-auteur de la scénographie.
Ouais. Alors en fait, notre modèle, il est un peu particulier. Parce que c'est pas Frédéric qui a fondé la compagnie, c'est nous qui avons fondé la compagnie et ensuite on allait chercher Frédéric Cherbeuf.
Alors nous, c'est qui ?
Alors nous, c'est à l'origine du projet, il y a moi et Denis Madère, donc on a créé la compagnie en 2020. Et ensuite, pour un festival en plein air qui s'appelle Les Nuits du Château, on m'avait commandé une pièce classique pour clôturer le festival. J'avais monté Andromaque 2 ans avant. Et donc là, on a choisi de monter le jeu de l'amour et du hasard. On a réuni les copains en sortant de Florent, nos professeurs. Et donc on est parti dans cette aventure. Et c'est comme ça que Frédéric nous a rejoints et qu'on a eu un mariage assez joyeux et assez festif.
À l'origine, ce spectacle était donc, le jeu de l'amour et du hasard, était un spectacle d'extérieur, ce qui se sent un peu dans la scénographie que vous avez, que vous proposez, qui est la scénographie d'une espèce de salle de bal extérieure avec une boule tango, un bar et une banquette faite de palettes.
Hein. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'à la base, donc, on l'a créé complètement en extérieur, donc c'était dans la cour d'un château. Et il y avait déjà cette idée de Frédéric, donc de jouer comme au Globo, je ne sais plus comment on dit, au Globo à Londres, donc d'aller chercher les
Globe.
Spectateurs, au Globe, voilà, au Globe à Londres, d'aller chercher les spectateurs, et donc d'avoir un jeu qui soit très shakespearien, très expressionniste, et aussi qu'on aille chercher les spectateurs, donc dans la foule, passer derrière, etc., etc. Et cette énergie, on l'a gardée, que ce soit au niveau de la scénographie et au niveau du jeu, en ayant un jeu qui reste toujours assez expressionniste pour du Marivaux, et une scénographie qui rappelle l'extérieur, donc canapé d'extérieur, gazon, boule à facettes, guirlande.
Alors pour ceux de nos auditeurs qui auraient raté leur cours de lycée, on peut peut-être rappeler l'histoire de cette double dissimulation. Alors d'abord, c'est un texte qui date de 1730.
Ouais.
Il est signé de Marivaux. Mm-hmm. Il a eu énormément de succès à l'époque où il a été monté. Pourtant, c'est un texte un peu subversif pour l'époque.
Ouais, c'est un texte pré-révolutionnaire.
De quoi ça parle ?
Alors, c'est donc Sylvia est promise à Dorante, donc qu'elle ne connaît pas. Et comme elle est terrifiée à l'idée d'épouser la mauvaise personne, un homme qui serait peut-être violent, peut-être vulgaire, etc., elle choisit d'avoir recours à un stratagème et donc d'échanger de tenue avec sa servante. Lisette. Donc elle est déguisée en Lisette tout le spectacle, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dorante a recours exactement au même stratagème. Et donc il est déguisé en Harlequin, Harlequin en Dorante. Et ce qui se passe, c'est que donc les valets tombent amoureux en étant déguisés en nobles, et les nobles déguisés en valets tombent amoureux. Ce qui donne pour le spectateur quelque chose de très réjouissant, parce qu'on sait très bien que tout va bien, mais pour les acteurs de cette mascarade, des situations cocasses et terriblement dramatiques.
C'est la panique, parce que donc Sylvia, qui est d'extraction plutôt noble, mm-hmm. tombe amoureuse d'un valet, mais c'est impossible. Socialement, ouais. mm-hmm. c'est une hérésie.
Oui, exactement. Complètement. Pour elle, c'est quelque chose qui... Et pour Dorante également, pour les ces deux personnages, c'est des choses qui ne sont pas acceptables, en tout cas à cette époque, et donc qui entraîneraient des conséquences assez graves.
Alors est-ce qu'avec ça, on peut se dire que c'est pour ça que vous avez choisi ce texte, parce qu'il y a un soubassement social ?
Ouais, complètement. Alors il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on est allé vers ce texte-là. D'abord, il y a l'aspect social. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui m'intéresse, c'est la question des luttes des classes, la question des inégalités, et c'est ce dont parle le spectacle. D'un côté, les très très riches, les très très pauvres, et la situation politique, économique actuelle rappelle un petit peu cette situation-là, avec des très très riches qui possèdent beaucoup et des pauvres qui possède rien du tout. Et il y a aussi une dimension féministe dans le texte. C'est rare d'avoir des textes classiques qui mettent autant en avant un personnage féminin. Déjà, d'avoir un personnage féminin en rôle principal, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Et de lui donner une telle liberté, le personnage de Sylvia, c'est un personnage où le père lui dit, dès le début de la pièce, tu rencontreras Dorante, si tu l'aimes, tu l'épouseras, si tu ne l'aimes pas, tu pourras lui dire...
Oui, il y a quelque chose d'assez novateur dans la position d'Orgon. Le père un peu, je veux dire, dominant, il laisse la possibilité à sa fille de refuser le promis.
Ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant et qui est assez... et qui nous a tout de suite plu, en tout cas. Et Marivaux, de manière générale, c'est un auteur qui écrit très bien pour les femmes, des rôles féminins très intéressants. Et ça, nous, dans notre volonté de monter des classiques pour les confronter à la modernité d'aujourd'hui, on avait envie aussi d'aller chercher cette modernité-là dans le texte de Marivaux.
J'ai quelques citations là. Sylvia dit « Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit ?» N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde et qui, finalement, sont des abrutis complets. Ça, c'est, ouais. Ça, c'est pas de Marivaux, c'est moi qui résume. Et une autre phrase. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme.
Ouais.
Parce que celui qu'on lui promet, enfin, celui qu'on semble lui promettre, qui est en fait le valet, est quelqu'un de rusto. Il est habillé, on voit que son costume lui va comme des escarpins à une grenouille, à peu près.
Ouais, c'est ça. Nous on s'est dit que Harlequin, à qui on donne la possibilité de se déguiser, de s'habiller en noble, s'est fait un kiff. Et en fait, il a choisi de prendre les meilleurs accessoires dans la garde-robe de son maître. Et en fait, il fait une espèce d'association de vêtements comme ça, un peu surprenante, et avec une coupe complètement, complètement ratée. Et donc, Sylvia, quand elle va voir son futur prétendu, va être profondément choquée, outrée.
Je voudrais aussi qu'on parle du frère. Mmh. C'est quand même une énigme parce qu'il cultive une espèce d'ambiguïté avec sa sœur. Il fait semblant d'être. Je ne vais pas dire qu'il est presque incestueux, mais il a un amour extrêmement développé pour sa sœur. En même temps, c'est un personnage. Hein. Il est torse nu sous un manteau en fourrure. Mmh. Il est très. Presque inquiétant.
Ouais, complètement. Alors, c'est, je trouve ça cool que vous l'ayez repéré. Parce que un des autres éléments qui fait qu'on a choisi aussi ce texte-là, c'est qu'il y a plusieurs grands parcours pour plusieurs personnages. Contrairement à beaucoup de textes classiques, par exemple Don Juan, où on suit un personnage et ensuite les personnages sont secondaires. Là, on a quatre grands parcours et on a deux personnages qui gravitent autour, le personnage du père et le personnage du frère. Et très souvent dans les mises en scène du jeu de l'amour et du hasard, le frère est laissé un petit peu de côté, le père aussi. Et là, c'était vraiment la volonté de Frédéric et on a adoré...
Frédéric Cherbeuf, en scène.
Exactement. Qui va arriver d'une minute à l'autre.
Non, il ne manquera pas.
Donc c'était vraiment la volonté de Fred de les mettre au centre. Et donc le personnage de Monsieur Orgon accueille les spectateurs dès le début. On les accueille comme si les spectateurs venaient à la maison. Et le frère, qui normalement est vraiment un personnage qui passe les plats un petit peu dans la pièce, là, il est au cœur du stratagème. Et on a voulu lui donner un aspect très sombre, très décadent, comme cette jeunesse complètement décadente qui a énormément d'argent, qui ne sait pas quoi en faire, qui se bourre la gueule à ne plus savoir pour essayer de donner un sens à sa vie. Et donc, il commence le spectacle en caleçon sur un des canapés avec une bouteille de vodka à la main. Et il se réveille comme s'il se réveillait d'une énième soirée.
Aujourd'hui, dans Radio Scénique, nous, on revient de notre marché à Avignon et on est revenu notamment avec dans notre besace, le jeu de l'amour et du hasard, dont nous parlent aujourd'hui Frédéric Cherbeuf et Adil Cheikh.
L'attrait est perdu de fruits défendus et du romanesque. L'amour est un jeu hasardeux aux péripéties. Pour charmer, il veut pour enjeu de la fantaisie. Le danger d'être surpris donne au baiser plus de prix. Voilà comment mon mari fait l'amour à Paris. L'amour est un jeu hasardeux aux péripéties. Charme, il veut pour ange de la fantaisie. Le danger d'être surpris donne au baiser plus de prix. Voilà comment mon mari on fait l'amour à Paris. Voilà comment mon mari on fait l'amour à Paris.
Vous écoutez Aligre FM
93.1.
Et vous écoutez Radio Scénique qui aujourd'hui se fait son retour de marché et dans sa besace d'Avignon, il est revenu avec Le jeu de l'amour et du hasard, mis en scène par Frédéric Cherbeuf. Frédéric Cherbeuf qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors on disait à l'instant que tout l'intérêt qu'il y avait aujourd'hui à monter une pièce du 18e siècle, mais votre mise en scène, dans votre mise en scène, il y a une espèce d'opposition, espèce d'accord entre cette langue belle, presque désuète, et la modernité des corps.
Ouais, tout à fait. On a essayé, on va dire, le mot est un peu un mot à tiroir, mais de dépoussiérer. Donc on a enlevé les foies d'hommes d'honneur, on a enlevé les voici venir disette, pour garder l'essence de ce qui nous paraissait effectivement moderne et pour faire se confronter les corps d'aujourd'hui, donc de jeunes gens d'aujourd'hui qui en âge des rôles et ce texte qui est un chef-d'œuvre de la littérature et du scénario hein, quand même, parce que c'est un scénario ahurissant.
Alors puisqu'on parlait tout à l'heure d'Avignon, il y a une grosse différence entre Avignon et la grande scène du Théâtre des Lucioles et la scène du Mathurin, c'est sa taille. Sur la scène des Lucioles, ça courait beaucoup, il y avait beaucoup de mouvements. Là, vous avez été amené à concentrer le jeu des comédiens.
Tout à fait. C'est ce qui est beau au théâtre, c'est qu'il faut s'adapter. Au Lucioles, il y avait un vélo et il n'y en a plus. Il y avait, on a eu des bottes de foin, on a parfois 10 mètres d'ouverture. Et là, effectivement, c'est un jeu assez jubilatoire pour les acteurs de devoir jouer dans des petits espaces, des grands espaces. Et du coup, on concentre un peu l'attention sur l'intimité, la vérité, la sincérité, et un peu moins de gymnastique. Mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait aussi que les acteurs ne se lassent jamais de jouer ce spectacle, je crois en tout cas.
Alors vous êtes non seulement le metteur en scène, mais vous êtes un des personnages, vous jouez par alternance.
Ça m'arrive,
Orgon,
ouais,
tout à fait. Ça le père de Sylvia, vous jouez
le
demain.
Le père de Sylvia, qu'on a essayé aussi de replacer un peu au centre du jeu, comme un metteur en scène qui observe tout ça depuis le début, il tire les fils du scénario. C'est un peu un personnage un peu machiavélique, manipulateur, marionnettiste. Et j'aime beaucoup ce personnage qui effectivement est à la fois machiavélique et en même temps très, très, très aimant envers sa fille qui va, comme dans la chanson de Reggiani, « Ma fille, mon enfant, voilà, tu vas partir ». Et il y a ça aussi dans le spectacle. Ce qu'on a vraiment voulu garder, c'est les trois grands axes du texte qui sont la comédie, bien sûr, la politique quand même, qui est aussi c'est une pièce sur la question des dominations et de la reproduction sociale. Et puis la troisième version, c'est effectivement quand même la tragédie amoureuse, incarnée beaucoup par Dorante et Sylvia, qui la peur d'aimer, la terreur de la fin de l'amour. Donc on n'a vraiment rien voulu éluder.
Mais vous laissez toute sa place au texte. Comment vous parliez de dépoussiérage? Comment est-ce qu'on arrive à faire un dépoussiérage sans que ça fasse gadget, sans que... On ne voit plus que vos costumes sur lesquels vous avez accordé une attention toute particulière. Ce sont des costumes qui sont entre deux. Hein. C'est presque. Alors, ils sont habillés de manière moderne, mais il y a quand même quelque chose qui peut faire penser à une certaine ancienneté dans le.
C'est vrai, c'est vrai.
On est presque entre le 18e et le 21e siècle. Vous avez trouvé une époque.
En fait, on s'est rien interdit. On a ce qu'on appelle pratiquer une dramaturgie amoureuse, c'est-à-dire que on se dit pas bon, ça va être entre 1950 et 1960. On se dit tout est permis. Donc, si on a besoin d'une robe de mariée pour disette, on le fait. Si on a besoin d'un bleu de travail qui me fait penser plutôt moi à mon grand-père qui était ouvrier. En Normandie et qui portait toujours des bleus de travail, on met un bleu de travail, donc on ne s'interdit rien et on a travaillé ce qu'on se disait souvent avec amour mais sans respect, c'est-à-dire que du coup on adore le texte, on est amoureux du texte mais on n'est pas dans un respect académique.
Alors il y a une chose que vous dites dans votre plaidoyer, c'est que dans une comédie sur le travestissement il était important aussi que les costumes illustrent ça.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Parce qu'on est sur un double travestissement, le travestissement amoureux et le travestissement social. La maîtresse prend la place de sa domestique et inversement, c'est tout le jeu de l'amour et du hasard.
Oui, tout à fait. Alors, nous, on a choisi des partis pris assez radicaux et très clairs. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup la clarté, la lisibilité de ce qu'on propose. Donc, effectivement, la servante qui se retrouve à la place de la maîtresse est en robe de mariée et la maîtresse qui se retrouve en servante est en bleu de travail qui est assez clair. Enfin, moi, j'aime beaucoup que les signes soient très clairs et très lisibles.
Et on a fait des ajustements aussi. Ouais, on a fait des ajustements parce que dans la toute première version, donc on cherchait encore, quand on jouait en extérieur, les servantes étaient en espèce de tenue de soubrette, sauf que ça ne nous parlait pas tant que ça. On n'aimait pas ce que ça racontait par rapport à notre époque. Et donc le bleu de travail coïncidait aussi beaucoup plus avec ce qu'on voulait raconter de la pièce et de la modernité d'aujourd'hui aussi.
Au moment même où vous présentez le jeu de l'amour et du hasard au Mathurin, il y a la folle journée où le mariage de Figaro qui est présenté actuellement à la Scala. C'est intéressant, là aussi, c'est sur les rapports de pouvoir et le mariage presque forcé. Et je dirais, là, dans la folle journée où le mariage de Figaro, il s'agit presque du droit de cuissage.
Oui, tout à fait. Alors, c'est deux textes que j'aime beaucoup. Et évidemment, la folle journée, elle est juste avant la Révolution française. Hein, donc, elle est extrêmement prémonitoire de la question des renversements des dominations. Mais déjà, dans le jeu de l'amour et du hasard, donc 30 ans, hein, 1734, il y a déjà ça en filigrane, il y a déjà une révolte qui gronde. Donc c'est deux textes que moi, en tout cas, je mets en parallèle et qui, pour moi, font écho vraiment.
Adib Chaki, je vais vous laisser le mot de la conclusion parce que malheureusement, il ne nous reste plus qu'une petite minute. Quel bonheur y a-t-il à jouer les amoureux de Rente?
Ah ben non, c'est assez génial parce que le texte est magnifique, la langue est magnifique, donc ça donne une infinie de possibilités et puis on a l'occasion de la jouer beaucoup de fois, donc de découvrir de toujours de nouvelles choses avec le texte et surtout le parti pris de jeu que nous a donné Frédéric nous donne une exploration sentimentale assez incroyable et un panel de jeux très très large.
Alors est-ce qu'il faut vraiment aller voir le spectacle tous les jours pour tomber sur l'ensemble de la distribution? Parce que rappelons qu'il y a 3 comédiens par rôle et que des rôles, il y a Arlequin, Dorante, Lisette, Mario, Monsieur Orgon et Sylvia. Comment on fait pour voir tout le monde?
Bah, j'avoue qu'au début, je pouvais pas imaginer une seule seconde remplacer les comédiens. Et la réalité du succès de ce spectacle a effectivement nous a poussé à faire des alternances. Et en fait, ça redonne vraiment du relief, puisque chaque personnage est incarné de manière très différente par des acteurs. Parce que moi, j'aime beaucoup la liberté des acteurs. Je suis acteur moi-même, donc j'adore cette liberté. Ils sont pas du tout contraints. Ils ont des rendez-vous précis, mais pas de contraintes. Donc en fait, on peut tout à fait aller voir 2 fois, 3 fois de jeu de l'amour et du hasard et on aura des versions très différentes.
Alors on ne saurait que inciter nos auditeurs à aller voir le jeu de l'amour et du hasard au théâtre des Mathurins. C'est une mise en scène de Frédéric Cherbeuf, un texte magnifique de Marivaux, mis en scène de manière moderne avec de jeunes comédiens. Adil Chaki, Frédéric Cherbeuf, merci.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Si la vie n'est qu'une compétition, tout le monde ne sera pas champion. À quoi bon courir pour se retrouver seul à l'arrivée? Si nous n'avons qu'une consolation, bien sûr c'est l'amour. Attention, l'amour c'est pas simple, c'est travail, mais pas une bataille. L'amour n'est pas un sport individuel, mais un jeu sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel. Les joueurs qui ne jouent gagner, ma foi, laissons-les s'empoigner. L'important c'est de participer à la folle équipée. Compagnons logés dans la même chambre, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est ensemble. Et et l'autre n'est pas un adversaire, c'est notre partenaire. L'amour n'est pas un sport individuel, mais un jeu sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Petit retour en arrière, nous sommes à Avignon en juillet 2025. Même en cette fin de Festival Off, il y a encore de l'ambiance dans les rues de la capitale mondiale du théâtre en cet été. Et bien sûr, les indispensables cigales, qui ont l'air d'être en retard d'ailleurs, elles sont de la partie. Mais je sens qu'elles vont arriver. Nous marchons à la rencontre des deux artistes qui, chacun leur manière, font leur premier Avignon. Le premier, Nicolas Robinet, comme auteur comédien d'une pièce foutraque et drôle, sous forme d'une uchronie, qui se résume à un postulat choc. Qu'est-ce qui serait passé si la gauche avait gagné les élections qui ont suivi mai 68? Quant à la seconde, nous l'avions reçue dans une précédente édition de Radio Scénique, avant son départ pour le Festival. Voici les cigales, nos invités arrivent. Carole Errant, on vous avait quitté dans Radio Scénique, vous apprêtiez à participer à Avignon. On est à Avignon, on est aujourd'hui le 20 juillet. Vous êtes en mesure de faire une forme de pré-bilan de votre air poids lourd, que ce texte de Lachlan Philpott que vous présentez au Théâtre des Carmes?
Ça se passe très bien, ça se passe très bien, c'est hyper joyeux, le public est au rendez-vous, on a des professionnels, c'était le deal quand on en avait parlé, je vous disais, pour nous vraiment la difficulté c'est de sortir du territoire de la région PACA. Et là,
vous êtes une troupe marseillaise, hein, rappelons-le.
On est effectivement une troupe marseillaise et la difficulté qu'on a c'est vraiment de faire découvrir notre travail en dehors de notre région sud. Et Avignon finalement, ça permet de vraiment rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est chouette.
Votre histoire, du moins l'histoire de Lachlan Philpott, c'est l'histoire de trois adolescentes qui décident d'explorer jusqu'au bout leur liberté, et notamment leur liberté sexuelle. Le problème, elles ont 14 ans.
Oui, c'est un fait divers à la base qui s'est passé dans une banlieue à Sydney, où effectivement, de jeunes collégiennes de 14 ans se sont livrées à la prostitution sur une aire de chauffeur poids lourd. Et la pièce de Lachlan, qui est allée d'abord enquêter avant d'écrire pendant plus d'une année sur place auprès des collégiens, collégiennes, mais aussi des professeurs, des parents, a écrit cette pièce. Et il s'attache davantage que vraiment l'acte en lui-même à comment ces gamines en sont arrivées là, quel a été le processus, la mécanique qui se met en place pour arriver à faire ce qu'elles ont fait.
Votre pièce à vous, Nicolas Robinet, elle ne se base pas sur un fait divers, mais sur un ensemble de faits qui sont des faits politiques. Elle s'appelle France Fiction. Vous l'avez carrément créée à Avignon.
Oui, ça a été une chance qui nous a été donnée par le Théâtre de la Bourse du Travail CGT. Et j'ai été très content de voir que ça avait pris très vite, qu'à la troisième, on était déjà complet. Vraiment, on est vraiment ravis de l'accueil public.
Votre rencontre, elle a été avec les années 70. Et votre pièce, elle réécrit l'histoire. Et elle nous dit, il y a eu mai 1968. Qu'est-ce qui se serait passé si les idées de mai 68 s'étaient prolongées et si elles s'étaient concrétisées par le vote?
Oui, c'est ça. En fait, c'est parti un peu d'une projection qu'on faisait avec Léa en parlant de projection que faisait son propre père, qui était un petit peu un 68-art, qui disait, on imaginait en 68 que l'an 2000 serait l'avènement de la semaine de 5 heures par semaine, enfin voilà, que le progrès technique et social nous amènerait à une vie plus heureuse. Et ce qui est fou, c'est que en analysant aussi les images d'époque, les archives, les livres, les bandes dessinées d'époque, on a vraiment cette sensation que tout est possible, que tout peut se réaliser et qu'il croit vraiment à un renversement total du système. Ce qui aujourd'hui est beaucoup plus difficile à imaginer, notamment pour ma génération. Je dois avouer qu'on a beaucoup de mal à imaginer des lendemains plus heureux, surtout avec le changement climatique et puis la montée des fascismes, etc. Et donc, on est allé chercher, je crois, dans cette période, la possibilité d'un ailleurs, d'un changement. Et au lieu d'aller chercher, en tout cas, la joie et l'espoir qu'il y avait dans ces années-là, pour évidemment parler d'aujourd'hui, hein, évidemment, c'est aussi une prise de distance qui est... Que Brecht emploie beaucoup dans ses pièces et qui m'inspire. En fait, je me suis rendu compte qu'en allant chercher une autre époque, on peut très bien, et on va peut-être encore mieux parler d'aujourd'hui.
Alors la Léa dont vous parlez, c'est Léa d'Hermont-Raffos, qui est votre acolyte dans la compagnie grenobloise les unes les autres. Finalement, vous avez ce point commun, Carole Errante, avec Nicolas Robinet, c'est de parler d'aujourd'hui, de parler de la société d'aujourd'hui.
De la société d'aujourd'hui, mais je l'entendais dire... qu'effectivement ça se passe à une certaine époque mais que ça nous renvoie à une actualité. Nous aussi, le fait divers, en fait, c'est pas passé aujourd'hui, le fait divers c'est passé en 2012 et c'est intéressant, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas aujourd'hui, ça laisse une distance, tout comme la pièce ne se passe pas ici en France mais à Sydney en Australie. Et j'aime ça, j'aime l'idée qu'il y ait cette distance qui nous permet de dire, mais en fait, que ça se passe ici ou ailleurs, c'est la même chose, on vit et on traverse les mêmes enjeux, en fait, les mêmes dynamiques. La scénographie est assez épurée. J'ai voulu vraiment faire entendre le texte, donc vraiment limiter au maximum. Au départ, il devait y avoir une vidéo. C'est écrit comme ça. Dans la pièce, il y a des inserts vidéo. Et je trouvais que c'était un médium supplémentaire, le texte étant déjà assez dense. Je n'avais pas envie qu'il y ait en plus des images vidéo et j'ai préféré que ce soit pris en charge par le son. Et donc par notre performeuse et créatrice sonore au plateau qui prend en charge tout ce qui était normalement censé être visible sur la vidéo, à savoir des insectes grouillants, des mouches, tout un univers comme ça aussi, de l'autoroute. Et tout ça est pris en charge par le son qui architecturise en fait l'espace.
On peut citer votre performance, elle s'appelle Jeannie Abouave. Alors de la musique, il y en a un peu sur le plateau de France Fiction, votre pièce, Nicolas Robinet. Elle est généralement un petit peu gratouillée à la guitare, avec des chansons alors dont on ne va pas qualifier les rimes d'approximatives, mais parodiques. Vous aimez ça ?
Oui, beaucoup. C'est une tradition ancienne, une tradition populaire ancienne qui s'appelle la goguette, qui a été connue un petit peu ces dernières années grâce au groupe du même nom, mais qui remonte en fait, on peut la faire remonter très loin, mais en gros, elle a connu un peu son âge d'or sous le Second Empire et la fin du 19e siècle, grâce à des cabarets un peu illégaux, souterrains, où on réécrivait des chansons, on écrivait des chansons satiriques, pour se moquer du pouvoir, pour se moquer des bourgeois, sur des airs connus. Et en fait, cette forme-là, elle est géniale parce qu'elle permet à tout un chacun d'écrire des chansons. Et donc, c'est vraiment sur ce mode-là que j'ai écrit les chansons. C'est-à-dire que j'ai récupéré une chanson de Renaud, une chanson du Pot d'âne de Jacques Demy, une chanson militante qui est Here's to You, Nicolas Bart. Plein de chansons comme ça. Et en fait, même le spectacle, j'ai réalisé après coup, est un peu écrit sur ce mode-là. C'est-à-dire que même le spectacle est une réécriture d'archives. C'est-à-dire que je vais prendre des archives sur l'INA, à gauche, à droite, je retrouve des matériaux et ensuite je les réécris, c'est-à-dire que je réinvestis la forme, mais je change le fond, je change les événements, puisque je prends le journal de l'ORTF et je le transforme en une tribune progressiste qui bouleverse complètement le cours de l'histoire. C'est ma façon à moi aussi de réécrire les choses, ma façon d'écrire, c'est de réécrire.
Eh bien, vous êtes toujours sur Aligre FM, à l'écoute de Radio Scénique. On vous propose aujourd'hui un retour sur Avignon. Et pour ça, on est revenu du Festival Off avec l'interview de deux artistes primo participants au festival. L'une, Carole Errante, mettait en scène l'air poids lourd de Lachlan Philpott. Quant à Nicolas Robinet, notre autre invité, il est auteur et comédien dans France Fiction. Avec lui, nous parlons de son écriture qui puise des repères dans les années 70. Retour à Avignon.
Pom 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 pom, je descends gaiement. Pom pom pom, je vais sur la terre. Pom 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 pom, je suis bien content de voir les petits enfants.
Pom 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 pom, grogne nos gentils. Pom pom pom, bonjour sur la terre. Pom 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 pom, on se réjouit de retrouver notre ami.
Pom 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 pom, je repars gaiement. Pom pom pom, je quitte la terre. Pom 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 pom, je suis très content. J'ai vu les petits enfants.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, retour donc à Avignon avec Carole Errant et Nicolas Robinet.
Votre intervention, elle consiste à utiliser un matériau d'époque, hein, les années 70 globalement, et de les faire exploser en leur faisant intervenir l'actualité, en disant, ben voilà, c'était comme ça dans les années 70, et moi, avec ma lecture de jeune homme d'une trentaine d'années, j'interviens, je dis, ben voilà ce que l'histoire aurait pu être aujourd'hui.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était vraiment de relire cette époque à l'aune aussi de notre regard, mais en assumant aussi ce qu'elle a été, c'est-à-dire on va avancer la date de la légalisation de l'IVG parce qu'on voit aujourd'hui les souffrances que c'est et surtout l'importance de cette lutte-là. Donc, avec humour, on la fait reculer d'année en année jusqu'à ce qu'elle remonte à 68. On fait avancer les acquis sociaux très très vite parce qu'on prend Pompidou en otage en disant on sait que tu es malade, on va le dire à tout le monde et donc donne-nous des acquis sociaux, donne-nous les congés payés, donne-nous etc. Et puis la révolution féministe et la révolution écologiste aussi, on les fait avancer beaucoup plus vite. On fait élire René Dumont, le premier candidat écologiste à la présidentielle, on voit ce que ça donne. Et une révolution féministe aussi, on s'est rendu compte que 68 avait été quand même une défaite aussi pour les mouvements féministes qui se sont ensuite structurés sous le nom du MLF en 70, mais on donne une place à Françoise Daubonne, qui est une écoféministe de l'époque, et qu'on transforme en une figure encore plus médiatique, qui arrive à vraiment prendre un vrai poste de pouvoir, et qui lance le « moi aussi », donc le MeToo finalement avant l'heure. On prend des événements d'aujourd'hui, on les décale à l'époque parce que c'est aussi pour nous une façon de dire les mouvements qu'aujourd'hui on trouve radicaux, qu'on trouve trop forts, trop violents, si on les transpose dans une autre époque, on en voit moins la radicalité. Ça nous permet de prendre une espèce de distance et puis ça nous permet aussi de prendre des reculs sur aujourd'hui les luttes qui nous paraissent radicales. Par exemple, les luttes animalistes aujourd'hui, elles nous paraissent parfois très radicales, mais peut-être dans 50 ans... on se dira, mais comment est-ce qu'on a pu manger de la viande ? Enfin voilà, c'est aussi des distances comme ça avec Léa qui nous intéresse.
Carole Errant, cet air poids lourd, vous l'avez dit, c'est un texte de 2012. En quoi est-ce que c'est un texte qui aurait été différent en 2025 ou alors est-ce que vous le trouvez tout simplement très actuel ? C'est un texte qui parle après tout de jeunes filles qui sont tout sauf des victimes.
Oui et non, elles sont quand même victimes de pédocriminalité, même si elles affirment qu'elles sont libres de leur choix, elles disent on n'a pas été violées, on n'a pas été droguées, on l'a fait, c'est tout, on les a laissées faire. Donc dans ce « on les a laissées faire », il y a aussi beaucoup de choses en suspension, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles ont 14 ans et qu'elles se prostituent avec des adultes, quoi, les chauffeurs routiers. Au-delà de revendiquer quoi que ce soit, c'est un jeu. C'est un cap ou pas cap. Ce sont vraiment des jeunes filles qui jouent et qui se lancent des défis, qui se lancent un pari impensable, dont celui-ci. Et on voit comment aussi la société de consommation, tous les biens qu'elles aimeraient pouvoir se payer et auxquels elles n'ont pas accès, ça serait pour elles une solution d'avoir de l'argent facile pour pouvoir acheter et pouvoir consommer ce qu'elles ne peuvent pas se payer. Il y a ça, il y a aussi tous les réseaux sociaux avec toute la sexualisation des corps des femmes et puis l'accès au porno pour les garçons. On voit aussi leur rapport avec leurs petits copains qui est assez violent pour leur âge et très clivant, très stéréotypé, qui fait qu'elles rentrent en fait dans une mécanique sociétale qui font qu'elles en arrivent là. Elles ne se revendiquent pas libres de faire ça. C'est pas une liberté qu'elles ont. C'est peut-être justement le fait qu'elles soient aliénées à la consommation et aux écrans et au porno depuis cet âge-là et qu'elles sont élevées dans des familles un peu compliquées aussi qui fait qu'elles en arrivent là.
Je me penche en arrière, la caméra sur moi. Me lève, joue avec mes cheveux, la caméra sur moi. Puis se retourne, la caméra sur nous, il nous voit.
Dans chaque histoire, il y a deux versions. Ça, tout le monde le dit.
Action ! Alors, Ellie, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?
Vérité !
Je suis assise dans une banlieue de merde, dans un préfab de merde à côté d'une cité.
Action ! À toi d'abord !
Toi d'abord, après à moi !
Toi d'abord, après à moi, plus trash !
Une fois que c'est arrivé, ces choses qui se disent sur les réseaux, ces noms qu'on leur colle dessus, et les blagues, avec quelle rapidité ça démarre.
Si tu ne sais pas faire la différence entre ce qui se passe là, dans ta tête, et ce qui arrive autour de toi.
Action !
Mais qu'est-ce que tu vas devenir ?
Love Song Dedications, vous êtes avec Richard Mercer. J'ai Ellie au bout du fil. Vous pensez à quelqu'un en particulier, Ellie, en cette nuit frisquette ?
Oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Papa.
On vient donc d'écouter la bande-annonce de L'Air Poids Lourd, un texte de Lachlan Philpott mis en scène par Carole Errant. On retrouve nos deux invités toujours en ce mois de juillet sous les cigales du festival Off d'Avignon. Nicolas Robinet, ce sont des pédocriminels hein, qui, pour certains d'entre eux, que vous mettez en scène, dont Gabriel Matzneff. Alors, eux, chez vous, ils prennent assez cher, hein, puisque vous avez décidé d'aller jusqu'au bout de l'idée et de les faire assassiner.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a une série d'attentats. Alors, ça commence avec Gabriel Matzneff, qui n'est pas assassiné quand même, qui est tout simplement, en fait, il est victime un peu d'un happening de la part de Françoise Daubonne qui prend en otage l'émission Apostrophe pour l'humilier 15 ans avant l'humiliation qu'il a vraiment subie en 90 par une écrivaine québécoise. Et aussi ensuite, effectivement, les pédocriminels. Donc on a Claude François, on a les chanteurs de variété en gros de ces années-là, Serge Gainsbourg aussi, dont on a mis en avant, en valeur, la gravité aussi des propos et des actes. Et en même temps, je ne peux pas nier que, c'est ce que j'ai dit dans la pièce, que la pédocriminalité, elle a été aussi portée par mai 68, par beaucoup de gens de mai 68, que les tribunes pédocriminelles dans Libération, qui ont compté Gabriel Matzneff, mais aussi en vérité Françoise Daubonne dans leur rang, et Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, elles ont existé. Donc j'aime beaucoup mai 68, j'aime beaucoup l'héritage de mai 68, mais je ne voulais pas le faire sans quand même porter un regard critique sur cette chose-là. Et ensuite, il y a la question de la violence. Et jusqu'où on va ? Est-ce qu'on les peut éliminer ces gens ? Donc il y a une espèce de folie comme ça, d'assassinat que perpétré par Pimprenel de Bonne Nuit les Petits dans la pièce et qui se met à assassiner violemment tous les chanteurs de variété de l'émission de Michel Drucker jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée dans sa folie par Nounours. Et il y a la question du coup de la violence qui est posée. Qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on a identifié les agresseurs ? Est-ce que vraiment c'est la solution de tous les tuer ?
Vous saisissez tous les deux d'un certain nombre de problématiques qui sont graves. Comment on fait pour en parler sans donner de leçons ? Comment on fait pour faire un spectacle qui est susceptible de toucher tous les spectateurs sans être un tract ?
Moi, déjà, j'ai choisi un auteur, Lachlan Philpott, qui se place à cet endroit-là, qui n'est jamais en surplomb, qui n'est pas moralisateur, qui ne va jamais nous dire c'est bien, c'est mal, qui a cette particularité troublante de nous laisser face à nous-mêmes. Il déploie une tranche de vie, aussi violente soit-elle, et puis ciao. Après, c'est à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire.
Est-ce que c'est important, quand on parle de thèmes aussi graves que celui que vous abordez, de continuer à faire du beau ?
Moi, ce n'est pas une question que je me pose, faire du beau ou de l'esthétiquement recherché, en fait. On me dit qu'il y a une certaine esthétique dans mon travail, mais c'est vrai que ce n'est pas le moteur. Donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne cherche pas ça en tout cas.
Nicolas Robinet, vous avez aussi une certaine esthétique. Vous empruntez l'esthétique des années 70, dont vous reprenez beaucoup les codes, quitte à vous-même vous travestir en Delphine Seyrig en pyjama de pilou rose. Vous n'hésitez sur aucune faute de mauvais goût.
Non, c'est pareil. Je trouve qu'il faut tout oser. En fait, j'écris ce qui me fait rire. Ce qui crée le gag, c'est pour moi la rencontre entre cette époque qui est quand même très conservatrice encore, qui est quand même très traditionnelle avec les costumes, les choses vraiment, qui c'est très poussiéreux dans un certain sens. Et en même temps, il y a cette espèce de truc un peu punk, un peu chelou, un peu crade de l'époque, les Shadocks, les choses comme ça, ou les choses très psychédéliques, où il y a une espèce de brèche où l'imagination peut s'engouffrer facilement, je trouve. plus qu'aujourd'hui où tout est très carré, tout est très millimétré et finalement on n'a pas beaucoup de place à l'imaginaire. Je trouve que c'est une époque, dans mon esprit en tout cas, évidemment, elle est très différente certainement dans la réalité. Elle a été beaucoup plus sombre que ce qu'on même on voudrait voir aujourd'hui, je pense. Mais effectivement, je vais chercher aussi ce qu'il y a de fun là-dedans. Moi, j'ai envie que les gens s'amusent, j'ai envie que les gens rigolent, j'ai envie qu'ils passent un bon moment autour d'idées intéressantes et autour d'idées qui moi, me paraissent pertinentes à traiter, quoi.
Carole Errant, on est presque à la fin de ce Festival of d'Avignon. Est-ce que ça correspond à ce que vous étiez imaginé?
Disons que j'avais peur d'être vraiment beaucoup plus fatiguée. Alors, on a été épuisés les premiers jours et je trouve qu'on a trouvé une vitesse de croisière et que là, ça va bien, ça se passe bien. Je me suis complètement, hors de chez moi, de mon quotidien. Je fais des belles rencontres. C'est un peu magique, c'est un temps suspendu. Moi, j'en savoure vraiment tous les jours les bénéfices.
Nicolas Robinet, la même question.
Oui, il y avait un fantasme. C'est la 10e année que je fais le Festival d'Avignon. Et donc, j'ai fait un peu tous les postes. J'ai été festivalier au début. J'ai tracté pour d'autres compagnies. J'ai été guichetier pendant de nombreuses années, au L'Espacalia notamment. Je l'ai vécu d'un peu tous les plans. Et c'était un peu le seul qui me manquait. Donc, je suis content de l'avoir fait vraiment. Avec cette création qui, en plus, est une pièce que j'ai écrite, qui me tient très à cœur, avec une équipe que j'adore. Donc c'est vraiment beaucoup de joie, je suis toujours très ému à la fin du spectacle, je suis très fatigué mais c'est pas grave, je suis très content de ce qui se passe, déjà rien que de voir les gens, en fait moi, l'expérience humaine me plaît beaucoup aussi, rencontrer les gens, leur parler autour du spectacle, rencontrer des gens qui font des spectacles formidables aussi, ça me fait très plaisir, j'aime beaucoup cette expérience, je vais partir fatigué mais content.
Carole Errant, la question qui tue, quand est-ce qu'on va pouvoir voir votre spectacle? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir L'Air Poids Lourd? J'ai envie de citer la distribution. Vos comédiennes sont absolument formidables. C'est Alia Kouassement, Elisa Gérard, Anaëlle Audet, Anne Naudon et n'oublions pas Jenny Aboive qui fait partie intégrante puisqu'elle est sur le plateau et elle interprète une musique. Elle fait un live musical en direct. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir, vous lever les yeux au ciel, soit à Paris, soit en région?
Mystère, mais en tout cas, ce ne sera pas avant la saison 26-27, puisque tous les professionnels qui sont venus nous voir ont déjà bouclé sur la saison prochaine. Donc on croise les doigts en espérant avoir des choses qui se dégagent pour la saison 26-27.
J'ai la même question, Nicolas Robinet, à propos de France Fiction. Là aussi, on va citer la distribution. Léa Darmon, Raffos, qu'on avait cité tout à l'heure, Grégoire de Chavannes et vous-même, Nicolas Robinet. Des dates auxquelles on pourrait vous voir, soit en région parisienne, soit en région...
Pour l'instant, non, parce que ce ne sont pas des choses qui se décident tout à fait tout de suite. Effectivement, comme disait Carole, on repart avec beaucoup de promesses. On espère qu'elles seront tenues. Pour l'instant, on a des dates avec la première création de la compagnie qui était La Véritable Histoire de la Gorgone Méduse, qui est une réécriture féministe du mythe de Méduse par Béatrice Bienville, pour le coup, que j'ai mis en scène, qu'on jouera au Théâtre El Duende à Ivry à l'automne, les 16 et 17 octobre. Pour l'instant, voilà, beaucoup de théâtres nous ont dit que ça leur plaisait beaucoup, alors on espère des réponses favorables bientôt.
Alors on va vous souhaiter une excellente fin de festival, même si aujourd'hui, au mois de septembre, il est terminé depuis longtemps. Et un bon retour à vous, Carole, à Marseille, et vous donc dans votre compagnie à Grenoble. Merci à tous les deux.
On quitte donc Avignon, retour dans notre studio parisien avec une forme de bilan. Selon les premières estimations d'AFSC, l'organisateur du festival, le Festival of d'Avignon, ce festival apporterait au territoire une manne évaluée entre 19,4 et 22 millions d'euros via 1 600 000 billets vendus entre le 5 et le 26 juillet 2025, aux mêmes dates que le Festival In. Apparemment, on se félicite de la qualité de cette édition du OFF, une qualité dont le modeste témoin que je suis ne peut qu'attester. Alors un point noir toutefois, l'incertitude totale pour les compagnies qui sont souvent engagées lourdement pour faire venir leur spectacle et loger leurs comédiens et techniciens. On l'a entendu, l'exposition lors du OFF d'Avignon ne garantit pas une programmation, tant l'offre est pléthorique et variée. Il n'en reste pas moins qu'Avignon est un fantastique laboratoire pour voir ce qu'est aujourd'hui le théâtre. On retrouve maintenant Pascal Dutertre et sa chronique. Pascal, dans le cadre d'une histoire du théâtre commencée en avril dernier, vous allez aujourd'hui aborder le théâtre de la Renaissance, le théâtre à la Renaissance d'ailleurs.
Oui, en effet, après le Moyen-Âge, on arrive au XVIe siècle naturellement, Mais nous ne parlerons ni du théâtre élisabétain, ni du fameux Globe de Shakespeare à Londres, et encore moins du Teatro Olimpico construit en 1585 à Vicence, car nous avons déjà eu des chroniques sur ces sujets.
Bon d'accord, alors de quoi vous allez nous parler si vous ne nous parlez pas de tout ça?
Eh bien, nous resterons près de la Méditerranée et nous attaquons le sujet de la Commedia dell'arte que tout le monde connaît grâce à nos amis Arlequin et Colombine. Ce terme désigne le jeu masqué, improvisé, volubile et acrobatique qui met en scène des personnages déterminés. Il est joué par des troupes constituées qui voyagent de ville en ville. Se produisent dans la rue ou dans les cours des palais, ce qu'on appelle aussi la comédie des masques apparaît vers le milieu du XVIe siècle, non seulement en Italie mais aussi en France et en Espagne. Il s'agit d'une création collective de comédiens habitués à jouer ensemble. Il y a un scénario écrit par un auteur de la troupe qui reste anonyme. Le texte est dit face au public et à partir de ce scénario, les comédiens improvisent. Et ces improvisateurs cultivés ont tout un répertoire de répliques et de citations sous la main qu'ils ressortent en fonction des réactions du public. Et ils ont aussi comme ressource les fameux lazzi, des effets comiques qui relancent l'action et la font rebondir de manière burlesque.
Et ces masques, Pascal, qu'est-ce qu'ils représentent hein?
Ils sont là, bien sûr, pour caractériser chaque personnage et compléter le costume. En fait, il s'agit le plus souvent d'un masque partiel qui ne cache pas complètement le visage et permet des expressions faciales, des grimaces par exemple. Il faut noter que les comédiennes ne sont pas masquées, ce qui veut dire qu'il y a des femmes sur scène, grande nouveauté au XVIe siècle. Mais prenons quelques exemples pour donner une idée des costumes et des masques les plus connus. Et pour commencer, voyons à quoi ressemble le fameux Arlequin. Au début, son costume est celui d'un pouilleux, tout rapiécé, ce qui donnera ensuite le patchwork bigarré à motif de losange que l'on connaît. Son visage noir aurait été brûlé au feu de l'enfer. C'est un bon à rien, un peu naïf, glouton et paillard. L'autre valet, c'est Brighella, chômeur professionnel, en costume blanc, qui, lui, au contraire, est débrouillard et cynique. Nous avons aussi Pantalon, un des deux vieillards méchants et libidineux. Il arbore une barbe en pointe, un manteau noir et des longs caleçons, d'où viendront nos pantalons, eh oui. L'autre personnage que tout le monde connaît, c'est bien sûr Polichinelle, qui est aussi un valet. C'est en général un vieux garçon égoïste et vicieux, reconnaissable à sa bosse pleine d'esprit et sa démarche dansante. Et puis, parmi d'autres, il y a Colombine, la servante délurée et courtisée, parfois intrigante, au profit de ses maîtres et maîtresses. Elle aura une belle descendance dans les comédies de Molière.
Et tous ces personnages, quel genre de pièces jouent-ils?
Eh bien, des farces, évidemment. Il s'agit avant tout de divertir un large public. Le thème de l'intrigue est très simple. Repose sur des quiproquos et des manipulations. On peut même parler de truculence, voire de trivialité. Mais cela ne gênait pas même les gens de la bonne société. Une des pièces connues s'appelle « Les vieillards amoureux ». Intrigue dans laquelle le valet Brighella se joue de Pantalon et du docteur qui tous les deux convoitent la charmante Colombine. Les deux rivaux se retrouvent dans les bras l'un de l'autre croyant tenir la belle. La Commedia dell'arte a eu beaucoup de succès, y compris au prix de Jean de Lettres, ainsi Dubélé fut le premier français à les applaudir en Italie en 1555 et Montaigne les suivit de Bologne à Pise.
Et ils jouaient où, ces troupes de théâtre hein?
Eh bien, comme on l'a dit, ce sont des forains. Ils vont de ville en ville, ils s'installent leur théâtre où ils peuvent. Ils peuvent jouer à même le sol, sinon le castelet se monte sur des tréteaux. Il y a un rideau de scène et parfois les décors faits de châssis et tentures peintes qui représentent en général une perspective urbaine en trompe-l'œil. Les acteurs arrivent sur scène par le fond ou les côtés de la scène depuis de petites coulisses. Rien à voir avec la richesse du décor permanent dessiné par Scatmosi pour le Théâtre Olimpico de Vicence, dont nous avons déjà parlé. Mais tout cela, on s'en doute, nous amènera à ce qu'on appellera le théâtre à l'italienne. Donc, suite au prochain épisode. En attendant, si vous en avez l'occasion, revoyez le film de Jean Renoir, Le Carrosse d'Or, qui narre les aventures d'une troupe foraine en Amérique latine, un bel hommage à la Commedia dell'arte.
Fin donc de cette 18e édition de Radio Scénique. Remercions donc nos invités. Merci à Frédéric Cherbeuf, comédien et metteur en scène, et Adib Cheki, comédien dans Le jeu de l'amour et du hasard. Un spectacle totalement enthousiasmant où le classicisme de la langue rencontre l'énergie et le bonheur de jouer de la belle troupe de l'émeute. Rappelons que c'est au Mathurin jusqu'au 30 décembre et ensuite, je crois, tous les deux, vous avez une immense tournée, hein.
Ouais, on a beaucoup de chance. On a un peu moins d'une centaine de dates et un peu partout en France. Et peut-être on va retourner au Maroc aussi.
Merci. Nous avons ensuite entendu Carole Errante, metteuse en scène de l'air poids lourd de l'Aclan Philpott, un spectacle dans lequel le talent des comédiennes et de la performeuse musicale sont mis en valeur par une scénographie, une mise en scène, une mise en lumière totalement enthousiasmante. Merci enfin à Nicolas Robinet, auteur foutraque et rigolard et comédien déchaîné dans France Fiction, une uchronie délirante où vous verrez, on l'espère très prochainement, où vous verrez défiler Nounours, Pimpronel, Le Petit Train d'Interlude, bref. Des repères de la nostalgie des années 70, le tout au service d'un propos politique vivifiant et pas barbant. Vous l'avez compris, pas de date ou pas encore de date en région parisienne pour ces deux derniers spectacles, mais on va vous mettre des liens menant aux deux compagnies pour que vous puissiez les suivre, et bientôt j'espère avoir la chance de les voir sur scène avec autant de plaisir que nous. Évidemment, pour le jeu de l'amour et du hasard, vous aurez le lien. Ma belle équipe en studio, comme en coulisses, c'était à mes côtés aujourd'hui Pascal Duterte à la chronique et Pierre Demkov qui m'a assisté et concocté notre programmation musicale. Merci infiniment à eux. En régie aujourd'hui, il y avait Enrico Mastrogiovanni et Renaud Poussin. Merci également à eux. Pour plus d'informations sur notre programme et pour le réécouter, une seule adresse, allegrefm.org. Rubrique podcast, émission Radio Scénique. On se retrouve le 13 octobre sur cette même antenne à 10h. D'ici là, allez au spectacle, c'est là qu'est la vie. Mais la vie, elle est aussi au cinéma, et pour vous en parler sur Allegre FM, il y a Vive le cinéma. On en retrouve toute l'équipe à 11h.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.